Nous allons étudier ensemble la souveraineté de Dieu. Dieu est-il vraiment souverain sur toute chose? Dieu a-t-il un projet ou un dessein pour toute chose? Et Dieu est-il en contrôle de tout, vraiment? Je vais vous poser une question si vous le voulez bien. Pouvez-vous appliquer les vérités de la Bible à votre vie quotidienne? Ou ces enseignements vous semblent-ils éloignés de ce que vous vivez chaque jour? Ces quelques lignes peuvent vous aider à appliquer ce message aux situations réelles qui vous confronte à l'univers de votre propre vie. Imaginez qu'à la télévision, un soir, vous entendiez le présentateur dire « Toutes les maisons closes et tous les sex shops et autres iniquités ont été mystérieusement détruits. » Vous diriez certainement « Gloire à Dieu !» Et vous diriez que la main de Dieu était derrière tout cela. Bien entendu, vous auriez raison. Mais les incroyants ne verraient pas ça de la même manière, très sûrement. Supposez maintenant que le même présentateur, le lendemain, annonce « Toutes les églises évangéliques et autres ont été détruites. » Que diriez-vous alors? Diriez-vous « Gloire à Dieu » ou « C'est de la faute du diable » Pourquoi verrait-on la main de Dieu dans un cas et ne la verrions-nous pas dans l'autre? Nous verrions la main de Dieu dans la destruction des sex shops et la main du diable dans la destruction des églises. Si nous comprenons l'écriture suivant les textes de Romains chapitre 11 verset 36 et de Romains chapitre 8 verset 28, il nous faut reconnaître la main de Dieu dans les deux circonstances, et là, c'est plus dur. En attribuant tout le bien à Dieu et en blâmant le diable pour tout le mal qui se produit, on se rend coupable d'une hérésie très ancienne appelée le dualisme. Cette conception voit Dieu et le diable comme deux puissances souveraines en lutte pour s'arracher le contrôle de ce monde. Prenons un exemple. Vous êtes victime d'un accident. Vous arrivez aux urgences, le corps plein de douleurs. Que ressentiriez-vous si quelqu'un vous apprenait que Dieu n'a rien à voir dans ce qui vous arrive? Vous vous diriez certainement, mais où se trouvait-il quand cela est arrivé? Aurait-il pu l'empêcher? Pourquoi ne l'a-t-il pas fait? Le diable aura-t-il vaincu Dieu dans cette situation? Vous penseriez sans doute aussi, je ne dois pas être dans le bon camp. Dieu n'est pas aussi puissant que vous ne l'imaginiez. Si la puissance de Dieu ne suffit pas pour contrôler les mauvaises choses aussi bien que les bonnes, alors nous sommes dans une position très dangereuse. Nous allons voir ensemble quelques points qui parlent que Dieu a un plan. Non seulement qu'il a un plan, mais qu'il l'accomplit. Que tout le monde est au service de Dieu, même le diable. Que le bon Dieu châtie ses instruments de ses desseins. Incroyable, mais vrai pourtant. Commençons par Dieu et ses desseins. Il possède un plan précis pour le monde. Plusieurs passages de l'Écriture soulignent cela. Voyons par exemple Job chapitre 23 verset 13 qui dit ceci. Mais sa résolution est arrêtée. Qui s'y opposera? Ce que son âme désire, il l'exécute. Que trouvons-nous dans ce passage? Que la résolution de Dieu est arrêtée et qui s'y opposera? Deuxièmement, ce que son âme désire, il l'exécute. Donc, par définition, Dieu a un plan. Ce plan est immuable et le plan de Dieu réussira. Voyons un autre passage, il s'agit d'Éphésiens chapitre 1 verset 11. Voilà ce que nous dit Éphésiens chapitre 1 verset 11. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Ce plan inclut tout ce qui se produit. Prenons un autre passage, il s'agit de Romains chapitre 8 verset 28, qui nous dit ceci. Nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Encore une fois, ici, ce plan inclut toute chose. Certains nient l'existence d'un plan divin et d'autres n'acceptent pas qu'il englobe toute chose. Toutefois, la réalité est là. Voici encore un autre passage. Il s'agit du psaume 115, verset 3, qui dit « Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut ». Un autre passage encore est le psaume 135, verset 6, qui dit « Tout ce que l'Éternel veut, il le fait, dans les cieux et sur la terre, dans les mers et dans les abîmes. » Avant de rejeter tout cela en bloc, examinez ces versets très clairs et voyez s'ils s'accordent avec votre refus. Pour pousser votre étude plus loin encore, je vous donne quelques passages que je ne dirai pas, que je ne lirai pas plus exactement. Il s'agit d'Ésaïe, chapitre 46, verset 10. De Deutéronome, chapitre 2, verset 20. De 1 Samuel, chapitre 16, verset 14. Alors, où en est-on exactement? Alors, voyons voir, non seulement Dieu a un plan, mais il l'accomplit. Il est toujours en contrôle de toutes choses et il ne cesse d'accomplir son plan. Que ce soit en acte 2, où est engrangée une multitude de personnes à la Pentecôte, ou en Genèse chapitre 6, où il y eut un déluge universel qui engloutit la presque totalité de la race humaine. Dieu est l'auteur de l'un et de l'autre. Il est en contrôle. Et comme dirait le prophète Habacuc chapitre 3 versets 17 à 19, la pluie et une pleine récolte proviennent tout autant de la main de Dieu que la famine et les greniers vides. Apprenons à lui dire merci dans les deux circonstances. Mais parfois Dieu est silencieux et ça nous incommode et ça nous déstabilise. Le prophète Habacuc traite dans son livre d'un sujet très actuel. Pourquoi Dieu semble-t-il permettre à des hommes méchants de triompher des justes? Pourquoi Dieu semble-t-il parfois sourd aux prières de son peuple alors que ses enfants crient vers lui dans un temps de détresse? Lisons ensemble Habacuc chapitre 1 versets 1 à 6.
Voici la menace dont le prophète Habacuc eut la vision. Jusque à quand, Éternel, appellerai-je au secours sans que tu écoutes? Te crierai-je violence sans que tu sauves? Pourquoi me fais-tu voir le mal et regardes-tu l'oppression? Pillage et violence sont devant moi. Il y a contestation et la dispute s'élève. C'est pourquoi la loi est paralysée et le droit n'est jamais établi. Car le méchant assaille le juste. C'est pourquoi un droit perverti s'établit. Voyez, regardez parmi les nations, soyez dans la stupéfaction et la stupeur, car quelqu'un est en train d'accomplir en votre temps une œuvre que vous ne croyez pas si on la racontait. Voici, je fais surgir les Chaldéens, ce peuple impitoyable et impétueux qui traverse des étendues de pays pour s'approprier des domaines qui ne sont pas à lui.
Après la lecture de ce passage, nous réfléchissons un peu et nous essayons de voir ce qu'a fait Habacuc. Il s'adresse à Dieu dans sa prière et l'accuse de ne pas répondre à ses cris. Il l'implore d'envoyer un temps de réveil, mais il semble que Dieu laisse les choses empirer. Habacuc voit la violence, la corruption et l'injustice autour de lui, sans que Dieu semble réagir. Les quatre premiers versets rapportent son accusation de Dieu. Il accuse Dieu d'être sourd ou impuissant à entendre et exaucer les prières. Dieu répond à ce serviteur au verset 5. Sa réponse est plus difficile à comprendre que son silence. Voici ce qu'il dit. « Je vais susciter les Chaldéens. Que voyons-nous là ? Dieu est bien à l'œuvre ici, et il n'est ni sourd ni impuissant. En effet, il est en train de donner de la force aux Chaldéens qui sera son instrument pour le châtiment d'Israël. Les Chaldéens arrivent, et Dieu est lui-même responsable de leur venue. » Beaucoup de chrétiens vont me dire « C'est un mensonge que tu nous dis, parce que Dieu est bon. » Il est vrai que Dieu allait employer cette invasion pour accomplir ses desseins de bonté. En fait, cette épreuve provoquerait la repentance d'Israël et exaucerait la prière d'Habacuc pour un réveil. De telles méthodes ne correspondent pas à l'idée que l'on se fait de Dieu aujourd'hui. Pourtant, et en définitive, les Chaldéens arrivent, et ce n'est pas le diable qui les envoie, c'est Dieu. Si cela se produit pour nous dans notre vie, par exemple, demandons-lui de nous accorder la grâce de comprendre la leçon qu'il cherche à nous enseigner par cette épreuve, et cessons de blâmer le diable. Tant que vous ne voyez pas la main de Dieu en toute chose, vous combattrez Dieu et son dessein même. Il n'y a rien de plus tragique que d'écouter un chrétien sincère mais mal avisé, d'accuser le diable pour les fruits de sa propre bêtise. Il se pense tellement spirituel. Ce n'est pas de ma faute, c'est l'autre. Nous allons voir maintenant que tout le monde est au service de Dieu. Dieu emploie tout le monde. Il n'y a pas de chômage là-bas. Même le diable est employé. Beaucoup de gens s'offusquent de cette déclaration, mais c'est pourtant vrai. Tout le monde, y compris le diable, sert le dessein de Dieu. Même si le serviteur accomplit son service en grinçant des dents ou en haïssant son statut de serviteur, il sert quand même. Satan est l'exemple parfait du perdant. Il a tout perdu, à la croix surtout. Voyons ce qu'en dit Ésaïe, chapitre 10, versets 7 à 11, au sujet du peuple assyrien. Verset 7. Mais il n'en juge pas ainsi. Il parle de la Syrie, là, bien sûr. Et ce n'est pas là la pensée de son cœur. Il ne songe qu'à détruire, qu'à exterminer les nations en foule. Car il dit, mes princes, ne sont-ils pas autant de rois? N'en a-t-il pas été de Calno comme de Carchemish? N'en a-t-il pas été de Hanat comme d'Arpad? N'en a-t-il pas été de Samarie comme à Damas? De même que ma main a atteint les royaumes des idoles, où il n'y avait plus d'image, qu'à Jérusalem et à Samarie. De même, ce que j'ai fait à Samarie et à ses idoles, ne le ferai-je pas à Jérusalem et à ses images? Dans la tête de l'Assyrien, il n'y a pas de pensée pour Dieu, seulement le fait d'exterminer une nation et la dépouiller de ses richesses. Pourtant, à son insu, Dieu contrôle la situation et conduit toutes les actions des Assyriens de façon à accomplir son propre dessein et son jugement à l'égard d'Israël. Le psaume 76, verset 11, illustre très bien ce dont nous parlons. Un autre volet de notre étude illustre que Dieu châtie les instruments de ses desseins. Ceci est l'un des points les plus difficiles à saisir. Dieu punit effectivement ceux-là qu'il utilise pour l'accomplissement de ses desseins parce qu'ils agissent pour de mauvaises raisons et sans égard pour lui. Regardons Ésaïe chapitre 10, versets 12 et 13. Mais quand le Seigneur aura accompli toute son œuvre sur la montagne de Sion et à Jérusalem, je punirai le roi d'Assyrie pour le fruit de son orgueil et pour l'arrogance de ses regards hautains. Le verset 15 donne la raison de la colère divine à l'encontre de ce peuple qui pourtant vient juste de terminer la tâche que Dieu lui avait assignée. Réfléchissez sur ces passages qui ont une grande portée théologique. Ou Dieu est souverain, ou il ne l'est pas. Nous avons ici la possibilité de deux options. Soit l'homme est totalement libre, entre parenthèses, sa volonté limite donc la puissance de Dieu, soit l'homme est un robot, entre parenthèses, la souveraineté divine élimine le besoin de l'homme de faire de bons choix, et donc ce dernier ne peut être tenu pour responsable de ses actions. Mais les deux options sont fausses. Du début à la fin, l'Écriture enseigne la souveraineté de Dieu et son contrôle sur toute chose dans l'accomplissement du plan qu'il a déterminé. La Bible enseigne d'autre part que tout homme est entièrement responsable pour chacune de ses actions. Alors, notre esprit dit « ces choses se contredisent ». Mais l'Écriture enseigne qu'elles sont toutes les deux vraies. Pourquoi ? Parce que Dieu les révèle toutes les deux dans sa parole. En fait, Dieu utilise parfois des hommes méchants pour accomplir ses desseins, puis il les tient, ces hommes, pour responsables de leurs mauvaises actions. Même si nous ne saisissons pas vraiment ces deux choses, toutes les deux sont vraies. Certains nient l'une, d'autres rejettent l'autre, mais il faut par fidélité les proclamer toutes les deux. Un troisième volet que nous allons voir, c'est que l'affliction n'est pas toujours un châtiment. Même lorsque l'affliction survient dans notre vie, elle n'est jamais pénale. Le châtiment est toujours en vue d'un remède. Notre Père nous enseigne à travers l'affliction, mais ne nous punit jamais. Nous arrivons à la fin de notre étude, mais auparavant, nous voulons parler un petit peu de la providence de Dieu. Je ne peux dire la raison pour laquelle Dieu permet que certains de ses enfants endurent la persécution. Mais ceci est pourtant une réalité. Job, David, Joseph, Étienne sont des exemples évidents qui proviennent des pages de l'Écriture. De même aujourd'hui, nombre de nos frères témoignent de cette vérité. Il ne nous appartient pas de demander « pourquoi ?» ni de nier l'existence de versets que nous n'aimons pas dans la Bible. Dieu nous demande de témoigner de sa grâce et de sa puissance en nous confiant en lui, même quand nous ne comprenons pas. En voyant une bouteille de vin, nous pensons qu'elle contient du vin, mais le liquide à l'intérieur, même s'il y a de la couleur du vin, peut être tout autre chose. Seul le versement du liquide dans un verre et le goût montreront la nature du produit. Idem pour nous. Nous pouvons nous affubler de toutes sortes d'étiquettes. Toutefois, le vrai test de notre foi se révélera quand on nous versera dans le verre de la vie. Je vous remercie d'avoir été avec moi tout au long de cette étude. À vous maintenant de faire vos pronostics, vos réflexions et vos méditations. Je vous remercie encore une fois et que Dieu vous bénisse.